Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 6 novembre déjà 2017. Mon nom est Claude Blas. Bien heureux encore une fois d'être avec vous ce matin, entouré de bons collaborateurs, vos collaborateurs habituels. Et on va commencer par M. Roger Roy. Roger. Et tu as des sujets ce matin, naturellement.
Oui, j'ai un sujet qui s'appelle La détresse et l'enchantement. C'est pas le roman célèbre de Gabriel Leroy, c'est autre chose. C'est un texte que j'ai pris dans le Reader's Digest. C'est quelqu'un qui nous parle de Heather O'Neill.
D'accord.
C'est un auteur canadienne-anglaise.
Et
ensuite,
juste,
un autre sujet, c'est sur les cégeps, là, possiblement. Voilà. Possiblement, pas sûr.
Possiblement pas sûr.
Oui.
Est-ce qu'il va nous quitter? On ne sait pas. Et à ma droite, Serge Hamelin, naturellement.
Naturellement, bon certainement. Alors, tiré de la revue Protégez-vous, alors je vais vous parler des craquelins. Et oui, qui ne sont pas si craquants. Ce sont des tests qu'on a fait avec la revue Protégez-vous. Je vais vous parler des sans gluten et sans fibres, les fameux craquelins sans gluten.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et je vais vous parler de l'assiette anti-diabète. Ça, c'est au niveau de l'alimentation.
Bon, parfait.
Ensuite, quand vous êtes bien nourri, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez devant votre ordinateur ou votre télévision. Et là, mais il faut que vous payiez pour ça.
Ouais.
Et imaginez-vous donc, que je vais vous apprendre comment payer moins cher grâce à la revue Protégez-vous qui a fait des sondages.
Voilà. Ben merci Serge.
C'est un plaisir.
Et moi, je vous lirai un texte sur « Faut-il dépister le cancer? » En fait, c'est une question, tout simplement.
Ah.
Un texte que Roger m'a refilé.
Ah.
Ouais, il est très gentil ce matin.
Ah ouais.
Alors, on vous revient dans quelques instants.
Ça arrive, ça arrive.
Alors, Roger, on parle de quoi en première lecture?
On parle de littérature. C'est dans la sélection du Reader's Digest, un texte qui a pour titre « La détresse et l'enchantement ». Le texte est signé par Hélène de Billy. Elle nous parle de Heather O'Neill. Hélène de Billy l'a rencontrée. Abandonnée par sa mère à l'âge de 7 ans, élevée par ses sœurs, par un père imprévisible et violent, Heather O'Neill a grandi à Montréal dans une suite d'appartements vétustes aux fenêtres brisées et remplies de cafards. Figure incontournable de la littérature canadienne-anglaise, récompensée par de nombreux prix et admirée par la planète littéraire, la romancière de 44 ans a publié en 10 ans 4 ouvrages exceptionnels dont les intrigues se déroulent toutes dans le Montréal cru de la marge. Paru en février, son dernier roman, The Lonely Hearts Hotel, met en scène 2 enfants des rues tentant de survivre dans le Red Light District, dans l'entre-deux-guerres. Collaboratrice occasionnelle au Guardian de Londres et au Globe and Mail de Toronto, Heather O'Neill offre également aux lecteurs du monde entier des courts essais sur sa ville, des textes autobiographiques souvent empreints de nostalgie. Elle possède un imaginaire unique, qui lui permet de transformer la réalité la plus sordide en une sorte de conte de fées décalé, singulier, un peu inquiétant, soutient la romancière Dominique Fortier qui signe la traduction de l'unique recueil de nouvelles de Heather O'Neill, La vie rêvée des grippins, paru cet automne aux éditions Alto et qui sera suivi, ce livre de nouvelles, de Lonely Hearts Hotel chez le même éditeur. Ce sont les traductions françaises. Alors, Hélène de Billy lui pose un certain nombre de questions. Je vous les donne avec les réponses. Votre père, Buddy O'Neill, a joué un rôle important dans votre destin. Que pourriez-vous en dire? La réponse de Heather O'Neill. Il est né à Montréal en 1927. Durant la Grande Dépression, il fréquentait des bandits et considérait ce passé de petit criminel comme la plus belle époque de sa vie. Il m'a raconté avoir été incarcéré à la prison de Bordeaux à la suite d'un coup qui avait mal tourné. C'était un homme prompt à la colère et à la violence. Un père médiocre, en somme. Mais il croyait en moi. Un jour, il m'est arrivé avec un livre de Charles Dickens qu'il avait eu dans une vente de garage. Il m'a offert 2 $ pour chaque histoire que je lisais. Il travaillait alors comme concierge, mais à l'école, pour qu'on me traite avec égard. Il prétendait être professeur de philosophie. Il organisait aussi des festins avec de bons fromages qu'il volait dans des supermarchés. Il avait pris le nom de O'Neill à la suite du remariage de sa mère, je crois. Il était né Léonard Renault. Il est mort en 2015. Votre dernier roman s'ouvre sur l'hôpital de la Miséricorde à Montréal, où les filles mères devaient accoucher avant la Révolution tranquille. The Lonely Hearts Hotel décrit un milieu très dur. Réponse, tous mes livres mettent en scène des enfants négligés qui ont survécu à de mauvais traitements. Ils parlent de ceux qui parviennent à s'en tirer et de ceux qui n'y arrivent pas. Dans mon roman, Pierrot, qui possède le sens moral le plus aiguisé, sombrera. Il sera détruit. Il y a beaucoup de saltimbanques dans vos récits. D'où vous vient cet intérêt pour le cirque? Dans ma jeunesse, de nombreux artistes de rue se produisaient dans les parcs de Montréal. J'ai toujours adoré les artistes ambulants. Et en mai dernier, quand les géants ont défilé dans le centre-ville, j'ai rejoint la marée humaine pour les accueillir. Et quand elle était petite, ma fille avait décidé que nous irions voir tous les spectacles de clowns en tournée à Montréal. Nous avons vu des choses incroyables en provenance du monde entier. Je suis récemment tombé sur un article de vous dans le Guardian de Londres où vous rendiez hommage à Michel Tremblay, entre autres. Les auteurs québécois vous ont-ils influencé? En général, les auteurs francophones m'ont influencé davantage que leur vis-à-vis canadien-anglais. Elle donne aussi d'autres noms que celui de Michel Tremblay, d'autres Montréalais qui l'ont influencé, Leonard Cohen, évidemment, et Émile Nelligan. Et au sujet d'Émile Nelligan, elle dit ceci, « Quand j'étais enfant, j'habitais à un jet de pierre du carré Saint-Louis. Je savais que Nelligan y avait vécu. Cette idée du poète incompris devenu fou puis interné exerçait sur moi beaucoup d'attrait. J'en suis venu à le considérer comme une sorte de rockstar. Et puis, ses cheveux sont sublimes. » Dans votre dernier roman, le froid devient presque un personnage. Est-ce que pour vous, comme pour Gilles Vigneault, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver? Tout à fait, répond-elle. Même que dans la première version d'un précédent roman, j'avais repris la citation mot pour mot, et mon éditeur, qui ne connaissait pas Vigneault, a eu cette remarque. Quelle belle réplique! Question. Les querelles linguistiques ont longtemps caractérisé Montréal. Croyez-vous que la ville est encore divisée selon le concept des deux solitudes? Réponse, absolument. Je suis l'incarnation même de cette situation. Écrivaine de langue anglaise, les francophones ne me connaissent pas. Mais pour la génération de ma fille, je constate que c'est différent. Arizona a étudié la production cinématographique à l'Université Concordia, un programme où 80% des étudiants étaient francophones. C'était vraiment une chance extraordinaire pour elle. La sensibilité de ses nouveaux amis, leur intérêt pour le cinéma français, par exemple, tout ça lui a beaucoup apporté. Si elle avait fréquenté Concordia dans les années 1990, elle n'aurait pas vécu une telle expérience d'intégration. Vous êtes devenue mère à 20 ans alors que vous étiez sans le sou. Comment cette expérience vous a-t-elle marqué? Les 5 premières années ont été très difficiles. J'étais moi-même une enfant. Ça reste un souvenir douloureux encore aujourd'hui. On m'a beaucoup jugé, peut-être à cause de mes origines modestes. Je me souviens d'ailleurs qu'aux réunions de parents à l'école primaire, les adultes m'ignoraient. J'étais infréquentable. C'était dur. Votre imagination fertile vous a permis de vous en sortir, en plus de faire de vous une écrivaine célèbre. Faut-il conclure que vous n'avez jamais renoncé à votre cœur d'enfant? Oui, je suppose. Il y a cette capacité chez l'enfant d'interpréter ou de réinterpréter la réalité à tout moment, et comme il l'entend, alors que l'adulte est limité par une vision souvent réduite à la somme de ce qui lui arrive. Pour ma part, je crois que nous sommes beaucoup plus vastes que les emplois que nous occupons ou que la série d'humiliations que nous accumulons dans nos relations interpersonnelles. Alors, c'est une entrevue qui paraît dans la sélection du Reader's Digest, est assez intéressante parce que c'est une figure incontournable de la littérature canadienne anglaise qu'on ne connaît pas. À peu près pas.
À peu près pas, oui.
Et qui maintenant va paraître ses ouvrages vont paraître en traduction. Alors, on pourrait y avoir accès. Elle raconte ce qu'elle connaît, en somme.
Ah, oui,
c'est la ville de Montréal qu'elle a connue.
Et voilà.
Mais elle le fait en anglais.
Bien, merci, Roger.
C'est Hélène Dubilly qui s'est levée.
Ah, oui. On vous revient tout de suite après avec Serge. We'll be right back.
Alors, après avoir parlé de la détresse, est-ce qu'on peut craquer cette fois-ci, Serge?
Ah oui, vous pouvez craquer pour des craquelins, mais pas n'importe lesquels.
Ah non? Ah.
Seigneur,
c'est pas facile. Oh, dans les tests qu'on a fait avec la revue Protégez-vous, les craquelins, pas si craquants, Catherine Crépeau nous en parle. Vous cherchez des craquelins nourrissants pour accompagner votre soupe ou pour faire une bonne collation? Seulement 48 des 325 variétés évaluées valent le détour. C'est quelque chose? Les craquelins font partie du quotidien? Et la plupart des garde-manger en contiennent au moins une boîte. Mais il n'est pas facile de faire un choix de santé devant les dizaines de variétés vendues dans les épiceries. Les produits ont beau s'afficher comme étant à grains entiers, multigrains, légers ou faibles en sodium, ils sont souvent riches en gras et en sel. Et pour vous éclairer, nous avons évalué 325 sortes de craquelins, comme je disais tantôt, ordinaires ou sans gluten. Au final, 35 produits réguliers et 13 sans gluten sont dignes d'être recommandés. C'est beau? Et attention au type d'huile. Oh, là, là. Les fabricants ajoutent souvent de l'huile à leurs recettes de craquelins pour leur donner une texture feuilletée. Plusieurs se tournent vers des huiles riches en gras saturés, généralement celles de palme et de palmiste, qui sont bon marché et qui ont des propriétés culinaires recherchées par l'industrie. Mais comme les gras saturés sont à éviter parce qu'ils seraient nocifs pour la santé, nous avons exclu de nos recommandations les 62 produits qui en contiennent. La grande majorité des craquelins de notre évaluation sont faits avec de l'huile de canola ou de tournesol. Si vous fuyez le gras, optez pour l'un de nos 16 meilleurs choix, donc que je vais vous mentionner tantôt, qui n'ont aucune huile et presque pas de gras saturé. C'est beau? À l'inverse, les plus riches en la matière, les craquelins au fromage de Kars. En renferme 3,2 grammes. L'horreur. Vous recherchez un craquelin nourrissant qui vous procurera une bonne dose de fibres? La plupart des produits réguliers analysés n'en fournissent pas beaucoup. À peine 1 sur 5 contient au moins 2 grammes par portion et le seuil minimal pour être recommandé est seulement 17. Tous à base de seigle en fournissent 3 grammes ou plus par portion. Quant aux produits dits multigrains, ils ne riment pas toujours avec fibres. Par exemple, les minces aux légumes multigrains de Christie. Enfin, peut-être des graines de lin, de pavot et de tournesol, mais ils comptent 0 g de fibres par portion. Méfiez-vous aussi de certaines mentions qui portent à croire qu'un produit renferme beaucoup de fibres. Un exemple, les Vinta Collation Ail et fines herbes de Dare ont beau afficher avec 8 grains et céréales, ils ne contiennent que 1 g de fibres par portion. Et maintenant, si vous comptez mettre une garniture salée, comme du fromage, de la tapenade ou du prosciutto sur vos canapés. Eh bien, optez pour des craquelins faibles en sel. Vous en trouverez facilement, car le marché s'est amélioré depuis notre dernière évaluation. Les deux tiers des produits analysés en 2017 respectent notre limite de 140 mg de sodium par portion, alors que c'était un peu moins de la moitié en 2011. Avec leurs 400 mg de sodium par portion, les mini-croquantes de baguettes tomates séchées au soleil et basilic de la boulangerie Ace sont les pires à ce chapitre. Ça va? À l'autre bout du spectre, 4 produits sont sans sodium, mais un seul, le Muesli Crocandere Vita, est recommandé car il satisfait à tous nos critères. Par ailleurs, prenez les allégations des fabricants avec un grain de sel. Par exemple, malgré leur nom, les craquelins de blé teneur réduits en sodium de la marque Compliment contiennent tout de même 100 mg de sodium par portion et les premiers plus non saupoudrés de sel de Christie en renferment 110 mg. Hein, pas pire. Sachez que beaucoup de produits fournissent très peu ou pas du tout de sel et ne portent aucune mention à cet effet. Alors, à l'huile de palme. Voulez-vous savoir un petit peu de choses dont on en parle?
Allez-y.
Mais ici, j'ai des détails. Les huiles de palme, c'est pas, ça vient pas des palmes des canards. Là. Non, non, non. Et de palmiste, ça, c'est pas les messieurs qui ont des palmes. Okay. Ont mauvaise presse à cause de la grande quantité de gras saturé qu'elles contiennent, notamment de l'acide palmitique connu pour augmenter les concentrations de cholestérol. En fait, l'huile de palme contient surtout des acides gras saturés à longue chaîne, soupçonnés de favoriser les maladies cardiovasculaires. À l'état naturel, l'huile de palme, extraite de la chair et de la pulpe du fruit du palmier à huile, est riche en antioxydants et en vitamine A. Mais une fois raffinée, cependant, elle perd ses qualités nutritionnelles et gagne en gras saturé, une qualité qui est recherchée par l'industrie des produits transformés, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, maïs soufflé, panures, barres chocolatées, etc. En effet, plus un corps gras contient de gras saturé, plus il est solide à la température ambiante, ce qui le rend plus facile à travailler. Et l'huile de palme raffinée en contient 50%, soit autant que le beurre, alors que l'huile de palme modifiée, dont seule la partie solide du gras est conservée, en contient 75%. Et dans l'huile de palmiste, obtenue par le broyage du noyau du fruit, la proportion de gras saturé atteint 80%. Les huiles de palme et de palmiste ont aussi des ennemis chez les environnementalistes. La culture des palmiers, concentrée en Indonésie et en Malaisie, s'accompagne souvent d'une déforestation intense qui a des conséquences sur le climat, production de CO2 provoquée par les feux de forêt et sur les animaux qui y vivent, destruction de l'habitat des orangs-outans notamment, en plus d'entraîner le déplacement des cultures vivrières locales. Vous voulez éviter de consommer cette huile? Facile. Au Canada, un fabricant qui utilise de l'huile de palme ou de palmiste doit l'indiquer clairement dans la liste d'ingrédients. Il ne peut se contenter d'écrire « huile végétale ». La règle vaut également pour l'huile de copra ou de noix de coco, le beurre de cacao et l'huile d'arachide. Oh. Avez-vous un petit goût de craquelin?
Oui.
On peut continuer, vous savez. Oh. Allez, les tests, vous savez, voulez-vous les meilleurs?
Oui, allez-y.
OK. Alors, c'est
fine. Au moins pour nous guider.
Oui, OK. Alors, c'est les fines crisps originales seigle. Bon, 95% la note globale. Les Rivita multigrains, c'est bon ça. Les Rivita, Rivita ça s'écrit R-Y-V-I-T-A, OK? R-Y-V-I-T-A, l'autre, en troisième place. En quatrième place, les Rivita. Bon, ben écoutez, avec les Rivita, on est bon là.
Ouais. Ouais.
Hein?
Ouais, tout à fait.
Bon, ça va?
Ben c'est un bon avenir.
Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein?
Non, allez-y. Ben, les craquelins, ben, il faut se placer vraiment devant le comptoir et commencer à lire les ingrédients. Hein?
C'est fait ça? Qu'oubliez les Christie, là. Ah, tu sais, la marque Christie que tout le monde connaît, là.
Oui.
Hein? C'est eux autres qui ont fait les Whippets.
Oui.
C'est ça?
Effectivement.
Oui,
oui
c'est les Whippets.
Il pète ce biscuit chocolat.
Oui, ouais, c'est ça. Oui, pète. Alors, Christie, ouais. On oublie ça.
Au niveau
ça
des
va?
Craquelins, il faut le dire.
Ouais, au niveau des craquelins. Oui, ouais, bien sûr. Mais les Whippets aussi, j'ai l'impression que ça ne doit pas être très bon. Il doit en avoir du palme là-dedans. Merci beaucoup.
Merci, Serge. On vous revient dans quelques minutes.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café. Que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café,
que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Leur café, c'était Annie Poulain qui nous a fait cette version de ce classique de Serge Gainsbourg.
Alors, on a retrouvé Franceline Nuvard à travers les cônes oranges.
Absolument, absolument. C'était l'enfer ce matin pour sortir du Sud-Ouest.
Alors,
j'ai
comment
mis une heure
avez...
et demie
comment
à la place avez... de 30 ouais. minutes habituellement. Alors,
c'est
terrible.
La nouvelle mairesse, oui.
Ah,
elle a rajouté
non,
des
je pense
cônes.
Pas. Non, non, enfin, j'ai... non.
Alors, voilà. Franceline, de quoi vous allez nous parler comme
oui,
premier sujet?
Alors, mon premier article s'appelle « À quoi servent les banques ?» On a entendu parler des paradis fiscaux, là, et des problèmes, mais bon. Et donc, c'est un article écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire du 15 octobre 2017. « À quoi servent les banques ?» Les grandes banques occupent une place singulière dans notre imaginaire économique. On sait qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement de notre économie et nous utilisons leurs services tous les jours ou presque. Elles ont par contre généralement mauvaise presse par les temps qui courent, parce qu'elles engrangent des profits faramineux, facturent des frais de service toujours plus élevés ou que leurs dirigeants empochent des salaires mirobolants. Sans compter les milliards que plusieurs gouvernements ont dépensés pour les sauver de la catastrophe après la crise financière de 2008, particulièrement aux États-Unis. On aime détester les banques, même si on ne peut s'en passer. Pourtant, leur rôle fondamental dans notre économie demeure méconnu. Si elles sont à ce point détestées, c'est que les banques l'ont un peu cherché, beaucoup même. On vante souvent, moi le premier, la solidité du système bancaire et financier canadien. À preuve, les institutions bancaires du pays ont traversé la crise de 2008 sans trop de dégâts, malgré leurs investissements massifs dans de nombreux produits financiers pourris. Leur solidité pourrait toutefois être à l'origine des abus que nous décrions. Car cette résilience institutionnelle repose en grande partie sur le fait qu'il n'y a que quelques très grosses banques au Canada, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis par exemple. Comme la plupart des industries où l'on retrouve une grande concentration, les pratiques commerciales des entreprises tendent à être très peu différenciées et à abuser de leur pouvoir. Un exemple simple de cette dynamique, les frais de service. Dès qu'une banque les augmente, ses concurrentes suivent presque automatiquement et elles ne se privent pas de les augmenter largement. Un livre publié récemment intitulé « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier » chez VLB Éditeur lève le voile sur les pratiques plus ou moins acceptables de nos institutions financières et ne se gêne pas pour les dénoncer. Cet ouvrage est d'autant plus remarquable que son auteur, Fabien Major, n'est pas un représentant de la gauche contestataire et anticapitaliste. Il prospère à titre de conseiller financier indépendant depuis une vingtaine d'années. Les institutions financières sont pour lui des partenaires avec lesquels il travaille au quotidien. Il offre donc en quelque sorte un point de vue des banques de l'intérieur, ce qui ne l'empêche pas d'être radicalement critique de leurs pratiques commerciales, tout en offrant au passage des trucs pratiques pour mieux en utiliser les services. Je vous rappelle le titre du livre « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier ». Au-delà des manières de faire déplorables, Major met en lumière le véritable rôle que doivent jouer les banques dans notre économie. Au fil du temps, elles en sont venues à offrir une multitude de services qui ne sont pas à proprement parler bancaires. Elles possèdent toutes, au moins en partie, des filiales d'assurance ou de courtage mobilier, par exemple, ce qui les place souvent en position de force face à leurs clients, sinon en conflit d'intérêts. Autrement dit, la motivation première des banques n'est pas d'offrir le meilleur service ou le meilleur produit à leurs clients, mais de vendre le maximum de ces produits à son propre bénéfice. On en a eu un exemple il y a quelques semaines lorsque Desjardins a écopé d'une amende pour avoir vendu automatiquement une assurance vie à sa clientèle étudiante qui bénéficiait de prêts pourtant totalement garantis par l'État. Les banques occupent pourtant un rôle aussi sain que central dans notre économie. Leur rôle est d'être le plus invisible possible, de faciliter les échanges commerciaux autant que la vie des familles, mais force est de constater que leur puissance démesurée en a fait des acteurs arrogants qui méprisent les intérêts d'une large partie de leur clientèle. À moins de posséder une coquette fortune, nous ne sommes plus que des riches inépuisables de cibles inépuisables de revenus divers pour elles. Plutôt que d'être au service de l'économie, elles en sont qu'au service elles-mêmes. Voilà, c'était donc Yannick Marcil qui avait écrit cet article dans le journal L'Itinéraire du 15 octobre 2017.
Merci beaucoup, Franceline. Ça a quand même bien été, hein?
Oui, jusqu'au bout.
Dans la deuxième demi-heure, ben moi, je vous reviens tout de suite après avec un texte qui dit « Faut-il dépister le cancer? »
Il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour la Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche. Sont émoussés dans le bout, les flèches courtoises qui nous décochent. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Se consacrant à d'autres imbéciles. Il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre, on s'est roulé, mais vous avez perdu la verte et pas la tête. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Il y a des jours où Cupidon s'en fout. Thank you. toute licence. Le cœur, hélas, n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois, comptez fleurettes. Jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'ai pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout.
C'était Christian Roberge, qu'on a pu découvrir par le passé comme étant le chanteur de la formation Lost Fingers, qui a repris plusieurs succès à saveur jazz manouche, ici en solo, sur son album Hommage à Brassens, qui s'intitule Planète Brassens. C'était donc le premier extrait de cet album, Cupidon s'en fout.
C'est très bien, merci. Alors moi, je vais vous lire un article qui est paru dans l'actualité du mois de novembre de cette année, naturellement. Et on pose la question suivante, faut-il dépister le cancer? Est-ce que c'est une bonne idée?
Ah.
Bon, en fait, il dit que le dépistage des cancers permet-il d'allonger la vie aussi? Et pas nécessairement. En fait, plus je me renseigne sur l'effet des dépistages, moins je suis enthousiaste. Parce que je constate, avec les meilleurs experts sur le sujet, que notre volonté de vaincre ces terribles maladies se heurte aux résultats cliniques mitigés de bien des dépistages couramment effectués. Le mois de novembre étant consacré à la santé des hommes et notamment au cancer de la prostate, je vais prendre celui-ci en exemple pour illustrer mon point de vue. Comme on aurait porté 21 300 fois ce triste diagnostic au Canada en 2017 seulement, et que près de 4 100 hommes seront morts de ce type de cancer, eh bien un dépistage efficace devrait constituer une bonne nouvelle. Mais afin de savoir si le dépistage du cancer de la prostate permet effectivement d'allonger la vie, il faut de la méthode. Choisir un large groupe d'hommes, les répartir au hasard, faire passer un test de dépistage à la moitié d'entre eux et soigner les autres de manières habituelles, puis comparer la mortalité à long terme. Or, selon le US Preventive Service Task Force, la mortalité globale, toutes causes confondues, ne change apparemment pas, que l'on ait subi ou non un test de dépistage pour ce cancer. Cela s'explique par le fait que le traitement entraîne des complications, que plusieurs cancers ne causeront pas de problèmes cliniques réels et que les hommes mourront souvent d'une autre cause, mais au même âge. On sait toutefois que, de manière relative, le dépistage abaisse de 21% la mortalité attribuable au cancer de la prostate lui-même. Est-ce une meilleure nouvelle? Le chiffre impressionne, mais en réalité, la diminution est modeste lorsque mesurée de manière absolue. Cette mortalité passe de 0,6% à 0,5% sur une période de suivi de 13 ans, ce qui correspond à sauver un homme dépisté sur 1000 d'une mort par cancer. Et cela sans rien changer à l'espérance de vie. Peut-être le dépistage améliore-t-il au moins la qualité de vie? Probablement pas davantage. Il faut savoir que sur 1000 hommes dépistés, 240 recevront un résultat anormal du dosage sanguin de l'APS, ce qui conduira souvent à une biopsie pour confirmer ou non la présence d'un cancer. Ces biopsies aboutiront au diagnostic de 100 nouveaux cas de cancer sur les 1000 hommes dépistés. Environ 80 d'entre eux subiront alors soit l'ablation de la prostate, soit un traitement de radiothérapie, ou les deux, qui causeront possiblement de l'incontinence à un homme sur 5 et de l'impuissance à un homme sur 3. Notez qu'on pourrait diminuer ces effets secondaires en choisissant de traiter moins agressivement les plus petits cancers, une pratique qui aurait déjà cours au Québec, selon certains urologues. Non seulement le dépistage affecte aussi négativement la qualité de vie de bien des hommes, mais au diagnostic, surtout chez les plus âgés, de petits cancers qui causeront rarement des symptômes importants. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic, dont voici une frappante illustration. Alors qu'on trouve des cellules prostatiques cancéreuses chez près de la moitié des hommes de plus de 50 ans, le plus souvent, sans qu'ils en souffrent, moins de 3% d'entre eux succomberont à ce cancer, un énorme écart. Ces constats ont poussé le pathologiste Richard J. Ablin, découvreur du test d'APS en 1970, à juger durement sa propre invention. Je n'aurais jamais pensé que ma découverte, il y a 4 décennies, conduirait à une telle catastrophe de santé publique, disait-il, soulignant les coûts faramineux, les effets secondaires nombreux et l'absence d'incidence sur la mortalité globale. Mais remettre en question le dépistage du cancer de la prostate entraîne de vives et compréhensibles réactions venant parfois d'hommes ayant eux-mêmes reçu un tel diagnostic à la suite d'un test de dépistage, dorénavant persuadés qu'ils doivent la vie à celui-ci. Pourtant, de manière générale, même si ces histoires sont émouvantes, il est possible de jauger aussi l'effet individuel d'un dépistage, puisqu'on ne dispose alors que d'un côté de la médaille et qu'on ne peut comparer à rien cette situation clinique. Quand votre médecin vous proposera de doser votre APS, demandez-lui donc si le jeu en vaut vraiment la chandelle et prenez ensuite votre décision en disposant de toute l'information. Sinon, nourrir les hommes de faux espoirs, c'est en quelque sorte les trahir, ce qu'aucun médecin ne devrait porter sur sa conscience. Alors voilà, c'est un article dans l'actualité du mois de novembre 2017. Alors il faut se poser la question pour les suivis avec les médecins, si c'est bon, un dépistage. Alors, il faut vous dire que l'article a été écrit dans l'actualité par Alain Vadeboncœur, ce que j'ai omis de dire. Et voilà. Franceline, oui. Deuxième sujet.
Oui, alors moi, je vais vous parler du profilage social. C'est un article écrit par le RAPSIM, par Élise Solomon, qui est coordonnatrice communautaire du RAPSIM. Le RAPSIM étant le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Et donc cet article est dans le journal L'Itinéraire du 15 octobre 2017. En fait, qu'est-ce que le profilage social? Il s'agit d'un traitement différentiel de la part d'une personne en autorité envers des personnes en raison de leurs conditions sociales ou de signes visibles de pauvreté ou de marginalité. Un exemple de profilage social, c'est la remise de nombreux tickets aux sans-abri pour des gestes qui ne sont pas sanctionnés pour le reste de la population, genre jeter son mégot de cigarette dans la rue, sur le trottoir. Alors, dans cette lutte au profilage social, il y a un vent d'espoir pour des avancées concrètes. Alors, le 12 septembre, à quelques jours du déclenchement des élections municipales dont on a eu les résultats hier, les élus de la ville de Montréal ont fait connaître et adopter leurs recommandations en suivi de la consultation publique sur la lutte au profilage racial et social tenue en juin dernier. Le RAPSIM et d'autres organismes ayant participé à la consultation étaient présents à l'hôtel de ville pour l'occasion. Malgré la gravité du problème qu'est le profilage des personnes en situation d'itinérance, marginalisées ou racisées, par les institutions municipales, dont son service de police, il a fallu 3 ans de pression pour qu'enfin la ville remplisse sa promesse de tenir une consultation publique sur la question. La sortie des recommandations suscitait donc à la fois des attentes et des questionnements. Est-ce que le message porté par les groupes sur la persistance du profilage social en 2017 aura été entendu par les élus? Est-ce que l'enjeu aura été considéré avec sérieux? Est-ce que la consultation aura un impact et débouchera sur des situations concrètes? Alors, les 31 recommandations adoptées à l'unanimité par la quinzaine d'élus provenant de différents partis politiques assignés à cette consultation ont étonné de par leur qualité et leur pertinence. Elles répondent aux demandes portées de longue date par le RAPSIM, ses membres et alliés, et réitérées dans le cadre de la consultation. La première recommandation constitue un message fort et symbolique. Il s'agit pour la ville de reconnaître la persistance du problème de profilage au sein de l'administration publique montréalaise. Les élus recommandent ensuite de documenter le phénomène à l'aide d'une équipe indépendante, notamment en demandant au service de police de la ville de Montréal de collecter des données sur l'appartenance raciale et sociale présumée lors de toute interpellation. Afin d'agir en amont et de prévenir le profilage social, une recommandation porte sur la révision de la réglementation municipale encadrant l'occupation de l'espace public en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Parmi d'autres recommandations, on retrouve notamment la formation continue obligatoire des agents du SPVM, le service de police de la ville de Montréal, sur la réalité des personnes itinérantes et des travailleuses du sexe, la consultation des personnes itinérantes sur les projets d'aménagement urbain qui les affectent, l'amélioration du système des plaintes afin de faciliter la dénonciation du profilage et le développement d'initiatives de sensibilisation du grand public au vivre ensemble pour contrer les préjugés. Ce sont là toutes les actions pertinentes pour lutter sur plusieurs fronts contre le profilage. La consultation publique a permis de porter à l'attention des élus et de l'administration municipale la persistance du profilage social et des injustices vécues par un trop grand nombre de citoyens et citoyennes discriminés en fonction de leurs conditions sociales. Elle a aussi permis de montrer que les solutions existent et qu'elles dépendent de la volonté politique de les mettre en œuvre. C'est grâce à la mobilisation des organismes, des intervenants et intervenantes et des personnes victimes de profilage venues témoigner de la situation et proposer des solutions que le résultat de l'exercice s'est avéré aussi solide et porteur. Et maintenant, les recommandations ont été déposées au comité exécutif juste avant les élections. Ce sera donc à la prochaine administration municipale de les adopter et de les appliquer. Les mesures proposées sont ambitieuses et le travail qu'il reste à faire pour éliminer le profilage social et racial est grand. Il faudra veiller activement au suivi de ce dossier pour s'assurer que les recommandations se transforment en actions concrètes qui contribueront à diminuer le fardeau individuel et social du profilage social des personnes les plus vulnérables. Alors voilà, un dossier déjà pour Madame Valérie Plante sur son bureau dès ce matin.
Ah ben
l'application de ces règles.
Merci Franceline. Voilà. Au retour, on va retrouver Serge avec une enquête. Alors voilà, bon retour. On bascule un peu de sujet hein, quand même. On n'ira pas à l'enquête tout de suite, Serge.
Toute chose.
On va aller parler.
Ah ben, c'est toujours des enquêtes de toute façon. À Protégez-vous. On enquête sur, par exemple, les fameux craquelins.
Tu avais un désir profond de revenir sur ce sujet.
Ben, j'avais pas terminé. Ouais, et voilà, puis, franchement, je suis un amateur de craquelins, moi, sans gluten et sans fibres. Okay. Alors, les craquelins sans gluten foisonnent sur les tablettes et des épiceries. Et parmi eux, on a déniché 2 meilleurs choix et 11 bons choix. Ah. Alors, je vous les dis tout de suite. Ça va?
Oui.
Alors, le tutti. Tutti. T-U-T-T-I. T-U-T-T-T-I. Tutti gourmet.
Est-ce qu'il est tutti, le biscuit?
C'est les tutti grosses, là. Craquelin, raisin et graines de coriandre. Alors ça, c'est les meilleurs. Mm-hmm. OK? Puis les dairs bretons, haricots blancs, sel et poivre. Puis ceux qui sont pas mal, c'est les Christie, Good Thins et les dairs bretons, haricots noirs. Voilà, ça va? Alors les tutti... Si vous voulez avoir... le sans gluten est très à la mode du côté des craquelins. Et on en a recensé 80 variétés hein, que nous avons analysées en utilisant les mêmes critères que pour les versions ordinaires. Et les produits sans gluten sont dans un tableau à part pour qu'on puisse les repérer facilement si on est intolérant à cette substance ou si on est atteint de maladie cœliaque. Ça vous va? Mm-hmm. OK. Et c'est moins salé que les versions ordinaires. Un bon point pour les craquelins sans gluten sont en général moins salés que les réguliers. Même les pires à ce chapitre, 2 produits de glutino, cheddar et original, renferment la moitié moins de sodium que les plus salés des versions ordinaires. Et à l'opposé, parmi les 6 produits sans sodium, seulement 2 méritent que nous le recommandions, soit les craquelins raisins et les graines de coriandre, des tomates et citrouilles de la marque Tutti Gourmet. Bon, alors on y va. Maintenant, ah, ça, l'assiette anti-diabète. Alors là, installez-vous. Extrait et adapté du guide du mieux manger, Protégez-vous 2016. Plus de 60 000 personnes reçoivent un diagnostic de diabète de type 2 chaque année au Canada. Les conseils d'experts pour vous éviter cette mauvaise nouvelle? Eh bien, lorsque sa fille est née en 2015, Judith, c'est un prénom fictif, s'est débarrassée instantanément du diabète de grossesse qui lui compliquait l'existence depuis plusieurs mois. Fini le régime restrictif, les visites hebdomadaires chez l'endocrinologue et les piqûres désagréables. Et quelques semaines plus tard, la nutritionniste de l'hôpital avait toutefois une mauvaise nouvelle pour Judith. Les femmes qui ont souffert du diabète de grossesse sont plus sujettes que la moyenne à développer le diabète de type 2. L'embonpoint, l'obésité et le manque d'activité physique sont d'autres facteurs qui contribuent à cette maladie. Vous êtes à risque? Eh bien, tout n'est pas perdu, car une bonne alimentation et la pratique régulière et à une bonne intensité de sport peuvent diminuer de 90% la menace. Alors, par où commencer? Dans leur guide d'alimentation pour la personne diabétique, le ministère de la Santé et les services sociaux du Québec et Diabète Québec expliquent qu'une alimentation équilibrée représente la pierre angulaire du traitement du diabète et que cela passe par un contrôle optimal de la glycémie et des lipides sanguins et par l'atteinte et le maintien d'un poids santé. Surtout, ne coupez pas les glucides, même si vous seriez porté à penser que c'est la première chose à faire. Ils contribuent au bon contrôle de la glycémie, concentration de glucose dans le sang. Le truc, c'est de choisir des glucides de bonne qualité, c'est-à-dire des glucides dits complexes, comme l'amidon et les fibres alimentaires au détriment des glucides simples, comme le fructose ou le sucre de table. Et de répartir vos sources de glucides sur au moins 3 repas par jour, espacés d'environ 4 à 6 heures. Voici comment vous y retrouver. À privilégier les produits céréaliers à base de grains entiers parce qu'ils sont riches en fibres. Les fruits et légumes riches en vitamines, minéraux et fibres. Et la majorité des légumes ont un apport en glucides généralement faible et donc peu d'effet sur la glycémie. À privilégier les viandes, les substituts maigres, les poissons riches en acides gras, oméga 3, ainsi que les légumineuses qui sont d'excellentes sources de fibres qui favorisent le contrôle du taux de sucre et de cholestérol. À éviter Les aliments riches en sucre, en gras et en gras saturé ou trans, hein, on en parlait tantôt, l'huile de palme, etc. Desserts et collations, ça, non, hein, il y en a dans tout ça, dans tous ces produits. Et les produits à tartiner, les biscuits, etc., etc. Certains légumes qui ont une teneur en glucides plus élevée que la moyenne, comme le maïs, les courges d'hiver, musquées et poivrées, oui, et puis le panais et les pois verts. Vous pouvez en manger occasionnellement et il est alors préférable de les accompagner d'aliments riches en fibres. La viande rouge est à éviter. C'est bon? Alors, donc les choix risqués, c'est des aliments à haute valeur énergétique, des aliments riches en sucre, aliments riches en gras et aliments riches en gras saturés et trans. Et les bons choix, les légumes et fruits, les viandes et volailles maigres, légumineuses, tofu, produits céréaliers à grains entiers. Avec ça, là, on est sur la bonne voie. Exactement. Pour éviter le diabète de type 2 qui, chaque année au Canada, on reçoit, il y a 60 000 personnes qui reçoivent un tel diagnostic. C'est pas drôle.
Non, non. Et j'en suis une preuve vivante que de faire de l'exercice, de bien manger.
Oui.
Je suis un diabète type 2 et j'ai beaucoup baissé ma glycémie.
Eh ben voilà.
Alors voilà, vous avez jusqu'à à le faire. Alors on revient dans quelques minutes. Alors, Serge, on veut encore s'abreuver de vos paroles.
Envoyez donc.
Alors, un autre sujet sur l'actualité.
OK. Alors, on est dans l'enquête Télécom. Négocier. Frédéric Perron nous dit dans la revue Protégez-vous. Vous trouvez votre facture de télécommunication trop salée. Il est temps de négocier ou d'aller voir ailleurs. Les services de télévision, d'Internet et de téléphonie mobile et résidentielle coûtent cher. Très cher. Bell ou Vidéotron, facture près de 150 $ par mois pour un forfait trio, incluant environ 40 chaînes de télé, Internet haute vitesse à 25 ou 30 mégabits par seconde et la téléphonie résidentielle avec afficheur et messagerie vocale. Et tout ça sans compter le cellulaire. Confronté aux avis d'augmentation annuelle qui font constamment grimper leurs factures, certains consommateurs n'hésitent pas à négocier, et c'est ce qu'on a pu constater dans le dernier sondage DataConso portant sur les services de télécommunication auxquels plus de 3000 personnes ont répondu en mai et en juin 2017. Ainsi, au cours de la dernière année, 55% des répondants disent avoir tenté d'obtenir un meilleur tarif auprès de leurs fournisseurs. Et parmi eux, et j'en suis un de ceux, ont atteint, 64% ont atteint leur but. Et du côté des consommateurs qui n'ont pas essayé de négocier, environ le tiers avaient l'impression que le jeu n'en valait pas la chandelle. C'est peut-être vrai dans les régions où la concurrence est faible ou inexistante, mais comme en Abitibi-Témiscamingue. Les résultats du sondage prouvent toutefois que partout ailleurs, il vaut généralement la peine de tenter sa chance. Alors, gênez-vous pas. Hein? Prenez votre téléphone et téléphonez. Jugez-en par vous-même. Les répondants qui ont négocié auprès des grands fournisseurs ont obtenu une réduction mensuelle en moyenne de 32 $ par mois, ce qui correspond à une économie de 384 $ par année. Et comme vous, pour le type de diabète 2, j'en suis la preuve.
Ah, voilà.
Ça a fonctionné.
Oui.
Et ça va refonctionner, je vous le dis. Hein? Dans ce dossier, on présente en détail des résultats du dernier sondage. Alors, c'est merveilleux. Ne vous gênez pas. Non. Et dites, écoutez. Alors, il y a différentes compagnies, là. C'est beau?
Oui.
E-Box, TechSavvy, Ovan, Kudo, Magic Jack, Virgin Mobile, Telus, Cogeco, Vidéotron, etc., etc.
Alors essayez, j'espère que vous les ayez pris en note. Essayez-les! Alors voilà, merci beaucoup aux collaborateurs. Merci à Franceline, merci à Serge, merci à Roger et surtout merci au metteur en onde Jean-Sébastien Laliberté. Merci beaucoup. Mon nom est Claude Blas. Bien heureux de vous avoir retrouvé encore cette semaine. Et la semaine prochaine, on se retrouve. Et n'oubliez pas que l'émission est rediffusée le lundi, donc aujourd'hui à 13h, à 18h30 et à 23h. Et vous retrouvez cette même émission pendant toute la semaine. Bonne semaine.